Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. But I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about you, as I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Transistor pour votre émission de cinéma d'étoiles plein les yeux et bonsoir à toi Occitane.
Bonsoir Rémi. Cette semaine, deux films adaptés de faits réels, deux films de contestation, deux films qui dénoncent des crimes liés à des oppressions. Cette semaine, chers auditeurs et auditrices, nos chroniqueuses ont vu pour vous Détroit de Catherine Bigelow, un film sur une bavure policière d'ampleur survenue à l'Algiers Motel durant les émeutes de la ville éponyme dans l'Amérique ségrégationniste de 1967. L'autre film dont nous allons vous parler n'est autre que La Belle et la Meute de la Tunisienne Kawther Benania, adapté du livre autobiographique de Meryem Ben Mohamed, coupable d'avoir été violée. Crime racial pour l'un, crime sexiste pour l'autre, un vent de révolte souffle sur la toile des salles obscures cette semaine et je suis avec Maë, Léa, Sarah et Marie pour en parler. Bonsoir à toutes.
Bonsoir.
Bonsoir à toutes et en fin d'émission, on te retrouvera, Sarah, pour nous parler de Taxi Sophia, un film que tu as vu et dont tu nous diras quelques mots. On retrouvera également Pierre pour sa chronique Sérivore. Et puis, après la Bulgarie, la Tunisie et donc les États-Unis, on partira en Angleterre pour retrouver Caroline et un deuxième numéro de sa chronique Toute toile dehors. Mais tout de suite, on commence donc sans plus tarder avec Détroit de Catherine Bigelow, Occitane.
Tout à fait. Alors, comme je le disais, dans l'Amérique de la ségrégation, de la guerre du Vietnam et dans les banlieues pauvres et surpeuplées de la région industrielle des Grands Lacs, Détroit s'enflamme suite à une descente de police dans un club clandestin en juillet 67. Les émeutes prennent de l'ampleur, les arrestations se multiplient, le quartier est en flammes et les pillages sont monnaie courante. Le gouverneur déclare l'état d'urgence et la police, comme la garde nationale, ne tarde pas à considérer Détroit comme une zone de guerre, où les bavures demeurent impunies. L'une d'elles va faire scandale, celle de l'Algiers Motel. Des jeunes noirs et deux jeunes blanches y font la fête après le couvre-feu, et l'un d'eux joue avec un pistolet factice dont les détonations amènent les autorités à penser qu'un tireur embusqué les prend pour cible. Trois policiers pénètrent le lieu et, tenant les occupants sous la menace de leurs armes, ils n'hésitent pas à faire usage de la torture pour tenter de faire avouer à leurs victimes un crime qui n'a pas eu lieu. Trois d'entre eux sont assassinés de sang-froid et les survivants tentent d'obtenir justice en vain. Donc, un film assez difficile. Qu'en avez-vous pensé ?
C'est un film très nerveux, qui palpite tout du long comme ça. Je me rappelle surtout de ces plans au début du film que j'ai beaucoup aimé. En fait, la caméra, elle est un peu comme un petit animal qui zoome très brièvement sur des visages, des scènes à Détroit. Et c'est à la fois un animal peureux et peut-être aussi un prédateur, on ne sait pas trop, un prédateur qui hésiterait sur sa proie. Et puis, doucement, ça se cristallise autour de quelques personnes, puis dans un hôtel. Et là, on est coincé, et c'est l'horreur, quoi.
Je trouvais que dans ce film, en fait, il y avait une tension qui était omniprésente. Donc, je rejoins un peu ce que tu dis, Léa. En sortant, d'ailleurs, je ne savais pas quoi dire. J'avais juste les genoux qui flottaient, et j'étais un peu mal. Et la tension, elle est aussi, pas seulement dans la violence qui est explicite, mais dans une violence qui passe par des sous-entendus, avec par exemple la petite fille à sa fenêtre, qui, on le suppose, se fait massacrer par l'armée, ou bien le jeune homme qui est sous la voiture et dont on ne sait rien finalement de la vie ou de la mort. Bon, on suppose pareil qu'il est mort à cause d'une balle dans le dos. Donc c'est une violence qui parfois passe par des sous-entendus et je trouve que c'est encore pire parfois.
Et puis c'est une violence dont on détourne très facilement le regard, qui est évitée par un certain nombre de forces de la puissance publique qui vont préférer étouffer le scandale pour sauver un petit peu l'image, là où en fait les droits civiques à peine naissants sont déjà mis à mal. Mais moi, alors, vous parlez du rythme, et moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un problème de rythme dans ce film. Enfin, j'ai eu du mal avec, surtout la fin, j'avais l'impression que c'était un film qui avait du mal à se terminer, c'est-à-dire, il y a cette espèce de déchaînement de violence centrale de la scène du motel, mais après, il me semble qu'après la scène du procès, ça commence à se faner doucement, et on tombe très rapidement dans quelque chose qui fait très années 90, de ces films où voilà, on va se rapprocher du personnage qui chante, et comme ça, à la fin, on finit par une grande une grande envolée de chants de gospel comme ça, où on le voit chanter, puis avec des intertitres qui nous expliquent ce que sont devenus les personnages. Et ça, il me semblait que c'était quand même une pratique qui était interdite depuis 1999.
Quelque chose de très daté dans la forme, je trouve. Oui. Et un côté scolaire de manière générale, oui, parce que le film est quand même construit en trois parties. On a le prologue, le fait, l'épilogue. Enfin, c'est pour moi un peu le défaut du film. C'est, il est coincé dans cette forme en trois parties. Et quand on y pense avec deux semaines de recul, c'est vrai qu'on a un peu ce souvenir-là. Alors que pourtant, il y a des manières de filmer qui sont très contemporaines, quoi. Assez virevoltantes, avec ces zooms dont je parlais, et puis toutes ces caméras à l'épaule. Il y a ces deux éléments assez contradictoires.
Après, la caméra, il m'a semblé qu'elle avait du mal à se décider par moment. C'est-à-dire qu'il y avait donc, oui, toute cette histoire de la caméra qui est à l'épaule et qui est très nerveuse et qui essaye d'aller au cœur de l'action et tout ça, qui essaye de se la jouer vachement documentaire. Et puis des moments où on va avoir des espèces de gros plans très hollywoodiens, notamment lors du premier meurtre par la police dans le motel, où il va y avoir Carl qui est allongé sur le sol et où d'un coup la caméra va prendre le temps de faire un gros plan très serré sur son visage où on voit une larme couler pendant très longtemps, c'est un plan qui est très insistant et donc, voilà, sur le coup, je me suis vraiment questionnée sur son utilité et sa légitimité, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé.
Alors, bon, j'aimerais bien revenir sur la fin, en fait, plutôt que sur le gros plan.
D'accord.
Contrairement à vous, j'ai bien aimé le fait que ça se finisse sur le chant de gospel, parce que Détroit, ça ne doit pas être une affaire seulement de mort, mais il faut aussi sous-entendre peut-être qu'il y a de la vie après et que ces émeutes-là et cette affaire-là, un peu criminelle, a permis par la suite de soulever des questions de justice qui ont quand même servi, je suppose, pour la cause des droits. Enfin, la civique de la reconnaissance des droits.
Après, l'espèce de que sont-ils devenus à la fin, il y a quand même peu de reconnaissance. Enfin,
C'est assez pessimiste.
Enfin, la seule répercussion qu'il y a eu, ça a été une amende de $5,000, je crois.
Un truc ridicule,
je sais pas combien d'années après, à la famille de l'une seulement des victimes. Enfin, quelque chose d'assez... Enfin, je sais pas. Et puis, il y a quelque chose qui m'a posé problème aussi. Ça va être plutôt dans le... Plutôt une question de déontologie, peut-être une question un peu éthique de la manière dont le film a été fabriqué. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un carton qui m'a laissé un petit peu perplexe. C'est le moment où il y a un carton où ils disent... que le film a été reconstitué d'après les témoignages des uns des autres, d'après les coupures de presse et d'après quelques documents, mais on ne sait pas plus que ça d'où, quelles sont les sources. Et en fait, il nous explique que la scène à l'intérieur du motel, qui se veut assez documentaire et tout ça, est finalement une scène totalement reconstituée. Alors oui, c'est sûr, on s'en doute, c'est un film historique, etc. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tension entre le documentaire et une espèce de fiction romancée qui me paraît un petit peu difficilement tenable.
J'ai pas trop senti l'aspect romancé, je t'avoue, ouais.
Je sais pas, bah, moi, notamment bah, dans ce gros plan que j'évoquais tout à l'heure, des scènes un peu plus...
Ah oui, dans les mouvements de caméra. Mais j'ai bien aimé, en fait, cette indécision sur on sait pas trop dans quel régime on se situe. Une sorte de fébrilité où, d'un coup, la caméra arrête de s'agiter pour se fixer et dramatiser quelque chose. Non, cette tension, ça m'a pas mal plu. Ouais.
Après, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est peut-être le contexte de production, c'est-à-dire de nos jours, tout ce qui s'est passé l'année dernière avec Black Lives Matter, etc. Et puis la réalisatrice qui n'hésite pas à se frotter à ce genre de problème, enfin celle qui avait fait Zero Dark Thirty, il me semble.
Non, je ne sais pas du tout.
Bon, j'espérais que quelqu'un l'ait vu, mais parce que je ne l'ai pas vu non plus.
Ah, si, je l'ai vu. Non, je me rappelle plus.
C'est le film sur la traque de Ben Laden.
Oui, qui fait déjà un petit peu date dans le film de guerre et justement et or sans avoir vu Détroit, on avait l'impression justement en voyant la bande annonce. Qu'elle s'essayait au film de guerre, mais dans cette guerre urbaine qu'ont été ces émeutes, en essayant peut-être d'utiliser le savoir-faire qu'elle avait montré sur Zero Dark Thirty. Enfin, oui, ça, vous le direz mieux que moi. Quoi.
Elle filme des personnages qui reviennent du Vietnam et qui. Et elle n'hésite pas à prendre ces personnages avec leur passé fictif, mais qu'elle réinvestit dans cette zone de guerre urbaine, ouais, comme tu dis.
Puis là où c'est bien joué, par contre, je trouve, c'est parce que c'était pas évident quand même d'éviter l'écueil, les méchants blancs, les gentils noirs. Et elle fait le choix quand même de certains plans qui permettent d'évacuer ce problème, je trouve. Je pense à une séquence où on voit les milices noires qui caillasse un véhicule de pompier, et inversement, en fait, le blanc qui finit par tuer des noirs un peu de sang-froid, celui-ci, au début, on nous laisse la possibilité de penser que c'est une erreur de parcours parce qu'il est fatigué, machin. Au bout d'un moment, on comprend que c'est simplement quelqu'un de raciste, mais on nous laisse quand même, jusqu'à à peu près un bon tiers du film, le bénéfice du doute là-dessus.
Il y a quand même l'idée qu'il est entraîné plus ou moins par... Enfin, qu'ils s'entraînent les uns les autres, une espèce d'inertie comme ça qui est assez... inextricable.
Ouais,
on les voit transpirer.
Merle.
Voilà, il y a quelque chose de très organique dans la manière de filmer les corps, je trouve. Enfin, on les voit transpirer, on les entend respirer. Enfin, les sons sont très travaillés dans ce sens-là. Et puis il y a le personnage dans ce que tu disais par rapport à cette absence de manichéisme du gardien de la sécurité qui est noir lui aussi et qui fait la sécurité d'une supérette et qui se retrouve un peu pris dans cette affaire un peu par hasard et qui est là et qui observe et il sait pas trop comment se situer par rapport à tout ça. Il le dit lui-même à un moment. Il dit oui. Quand il y a un noir qui est en uniforme et qui a de l'autorité, les autres noirs vont le regarder d'une certaine manière, mais les blancs vont le regarder quand même comme quelqu'un d'inférieur. Il va se situer dans cet entre-deux et il va être ballotté tout le long du procès jusqu'à ce qu'il fasse masse et qu'il finisse par, en sortant du procès, vomir dans les fleurs autour du tribunal.
Oui, j'en avais un peu discuté avec Léa en fait à la sortie du film, enfin à peu près à la sortie du film, puisqu'on l'avait vu avec un jour d'intervalle, et j'ai beaucoup aimé aussi cette absence de manichéisme. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a des blancs qui aident les noirs, et bah, tous les noirs ne sont pas non plus des enfants de cœur, même s'il y en a quelques-uns qui chantent du gospel. parce que bah, déjà, les noirs, ce sont des gens qui fréquentent quand même des femmes corrompues, mais les femmes corrompues, on voit quand même qu'elles ont de l'humanité, enfin, ce sont pas non plus des femmes horribles. Et à côté, bah, y a un officier de l'armée, je crois, de la garde nationale, pardon, qui essaie de secourir les noirs. Et puis surtout, il y a ce jeune homme, ce jeune policier qui tue en fait sans le faire exprès. Enfin, il savait pas qu'il ne fallait pas. Et c'est assez fort. Ce
spoiler
moment.
Alerte.
Ouais.
Absolument.
Mais terrible, terrible.
C'est, alors bon, on va le raconter, alors attention, spoiler pour ceux qui comptent voir le film. C'est une scène où des jeunes policiers, alors que tous ses collègues emmènent des noirs dans les pièces à côté et font semblant de les tuer en faisant un bruit d'arme à feu et en leur disant de faire le mort, et bien lui, son supérieur lui dit bon, t'as jamais tué de nègre, alors du coup ça va être ton tour. Il va dans la pièce à côté, il revient, il dit oh là là, je me sens bizarre, ça fait bizarre la première fois et tout ça. Et là, d'un coup, son supérieur commence un peu à ressentir un certain trouble. Il va dans la pièce à côté et il a vraiment tué le jeune noir. Voilà. Et c'est un moment dans le film qui est absolument glaçant. Fin...
Mais...
Oui.
Et puis on sent que ça va arriver quand même. Mais...
Oui. Le pire, c'est qu'on s'en doute, en fait.
Oui. Enfin, c'est vrai que c'est une des scènes de ce film qui sont les plus glaçantes. Et il y en a quand même de nombreuses qui nous... Comme tu disais, qui nous laissent un peu les genoux en coton à la fin du film.
Bon, et alors pour finir, est-ce qu'on va le voir ou pas ce film ?
Pour moi, ce sera un pourquoi pas, oui, pourquoi pas aller le voir, mais je le recommanderai pas non plus. Absolument, absolument.
Moi, oui, pour l'expérience plutôt. C'est pas un film que je reverrai, mais c'est bonne expérience.
On a toute une gradation.
Je suis plutôt du côté de Léa. Disons que ce n'est pas un film très agréable sur le coup, mais pour l'expérience, c'est vraiment génial.
Et donc, on va continuer avec La Belle et la Meute, alors que je n'ai pas pu voir. Du coup, je vais gentiment jouer le rôle de naïf et poser quelques questions à Maë et Marie. Vous l'avez donc vu, ce film. Un film qui dénonce donc un autre crime, mais un crime sexiste cette fois. C'est adapté de Coupable d'avoir été violé de Meryem Ben Mohamed. Et donc, on suit donc ce personnage de Mariam, 21 ans, qui se rend à une soirée étudiante à Tunis où elle sympathise avec Youssef, avec qui elle sort se balader sur la plage. Trois policiers les voient et deux d'entre eux la violent dans leur voiture pendant que le dernier s'éloigne avec Youssef. Traumatisée et terrorisée, elle se rend avec Youssef à l'hôpital local où le personnel refuse de lui prodiguer un certificat attestant qu'elle a subi un viol et l'oblige à se rendre au poste de police. Les policiers corrompus vont tout faire pour enterrer l'affaire alors que leur victime cherche désespérément à obtenir justice. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film qui a fait un petit peu de bruit récemment ?
Alors, personnellement, en tant que film militant, je pense que c'est très intéressant d'aller le voir.
Si on revient sur ses qualités cinématographiques, c'est pas mal, mais bon, j'ai des réserves qu'on va sans doute développer par la suite dans la, discussion.
Mais...
Alors, je sais pas trop quoi penser. Je sais pas trop quoi penser de ce que tu viens de dire. Après, moi, je pense que je suis une spectatrice assez naïve. J'ai pas une grande culture cinématographique. Mais,
ah, mais moi non plus, t'inquiète en tout pas. Cas... On n'est pas des Rémi Serda.
Mais en tout cas, le film a joué son rôle sur moi complètement. Du coup, au niveau de l'esthétique, je dirais qu'il a vraiment rempli son. Son rôle avec moi, parce que j'ai eu du mal justement à penser ce film. Je me suis laissée assommer, malmenée par ce film. J'en suis sortie complètement, complètement traumatisée. Mais donc, je pense qu'il a été efficace quand même.
Bah, je suis assez d'accord là-dessus, au sens où c'est une histoire horrible, avec une manière de filmer cette histoire qui rend bien à quel point c'est atroce. Donc ça, c'est sûr que c'est très efficace. Après, j'ai dit ça au sens où le choix de la réalisatrice, c'était de faire de cette histoire, qui a été vraie, de l'adapter sous la forme d'un thriller. Et du coup, je ne suis pas une grande adepte de thriller d'une manière générale, mais j'ai trouvé qu'au début, ça avait un peu de mal à trouver son rythme. C'était un peu... ça manquait de rythme. C'est-à-dire que la première partie du film... ça ressemble beaucoup à une espèce de quête désespérée contre l'administration qui décide de lui foutre des bâtons dans les roues parce que c'est l'administration avec toute sa pesanteur et sa bureaucratie. Et il y a un côté un peu Astérix et le formulaire rose saumon B42, sauf que dans Astérix c'est très rythmé. Et là, au début, ça ronronne un peu. Et bon, par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé que le film allait en s'améliorant au sens où ça gagne en rythme à force, et à la fin, c'est parfait, c'est, en tant que thriller, c'est bien. Mais voilà, sur la première partie du film, un peu, j'ai une réserve parce que ça manque un peu de rythme. Il y a cette structure en 10 actes, il me semble, ou 9, qui est... alors, pour le coup, c'est pas très scolaire de faire 10 actes, contrairement au film précédent, mais... au début j'ai trouvé que ça manquait un peu de rythme quoi.
Moi justement j'ai trouvé qu'il y avait du rythme. J'ai trouvé justement que la mise en scène était frappante avec ces chapitres là, qui tombent les noirs sur l'écran et avec les numéros qui s'abattent un à un pour faire marquer les différentes étapes de ce processus pour porter plainte et j'ai trouvé qu'il y avait du rythme et j'ai trouvé qu'au contraire la mise en scène était vraiment fine, qu'elle nous faisait sombrer avec l'héroïne et que moi, j'ai pas eu le temps de me poser cette question justement du rythme. J'étais juste là à être avec Mariam et à me dire, mon Dieu, mais comment elle va faire ? Et à pas comprendre comment elle faisait pour tenir encore debout et pour ne pas s'effondrer, alors que... à m'interroger au bout d'un moment sur ce qui la faisait continuer ce processus et pourquoi elle abandonnait pas, tout simplement. Parce que je trouve que c'est vraiment le sentiment qui ressort, c'est mais d'où elle tire sa force ?
Bah, ça rejoint un peu cette question de rythme. C'est que au début, elle est un peu effacée, et je veux dire, c'est normal, tu viens d'être victime d'un viol, c'est normal que tu sois encore sous le choc. Et du coup, dans cette première partie du film, elle est tout le temps avec Youssef, et c'est Youssef qui prend les décisions pour elle, qui la force, qui l'engueule parfois aussi, et ça c'est très bien, parce que du coup ça en fait pas un personnage manichéen, genre le grand mal sauveur, quoi. Il a ce côté un peu ambigu de à la fois il veut l'aider mais en même temps parfois il est quand même un peu brusque et il manque d'empathie, etc. Donc c'est un personnage qui est nuancé, qui est intéressant, et dans la première partie du film il prend beaucoup de place et en prend même peut-être un peu trop, je trouve. Et ce qui est bien, c'est que à mesure que le film avance et qu'il s'améliore, je trouve, Youssef disparaît. D'ailleurs à un moment il disparaît complètement parce qu'on le revoit plus. Mais voilà, et du coup c'est bien parce que ça laisse beaucoup de place à l'affirmation du personnage de Maria, que ça pour le coup j'ai trouvé très réussi, parce que à mesure que le film avance, elle est vraiment de plus en plus affirmée, et même si c'est un film qui finit pas bien, je pense, on peut le dire, il y a eu une bonne progression du personnage, une progression intéressante dans la manière dont elle est filmée au cours du film, j'ai trouvé. Et c'est pour ça que je trouve que ce film vaut vraiment quand même la peine d'être vu, quoi.
Oui, je suis assez d'accord, mais pas complètement. Je trouve que même quand Youssef prend beaucoup de place et qu'effectivement elle est un peu effacée au début, elle est toujours dans le cadre et on la voit toujours derrière, qui peine à tenir debout, qui se jette sous les roues d'une voiture, qui vomit sur le comptoir. Et bon, ça dit comme ça, c'est un peu troublant, mais il faut voir le film, je pense, pour le comprendre, mais... Elle est toujours omniprésente et je trouve que la façon dont c'est filmé et l'atmosphère fait qu'on voit bien que c'est son histoire qu'on raconte et que le malaise qu'on ressent, c'est bien son malaise à elle et pas seulement le malaise d'une scène qu'on verrait de l'extérieur. J'ai l'impression qu'on est presque dans sa tête, même si évidemment on voit les scènes de l'extérieur, on filme d'autres personnages. J'ai l'impression qu'on est avec elle, on est dans sa tête, c'est bon, je vais repartir sur un côté un peu plus littéraire, c'est vraiment c'est narrateur-personnage presque.
Oui, et du coup, cette identification à ce personnage dont vous avez quand même l'air de dire qu'elle est assez forte, j'imagine qu'elle passe peut-être aussi par le jeu d'une actrice, parce qu'on a l'impression, à voir la bande-annonce, qu'on a vraiment... parce qu'on appelle parfois un peu à tort au cinéma un portrait de femme, mais vraiment une espèce de rôle de composition qui a l'air assez monumental dans ce film.
Alors, monumental, je sais pas. Peut-être pas quand même, mais très intéressant. Déjà, un point dont on n'a pas parlé jusqu'ici, c'est le fait que la scène de viol est complètement passée sous ellipse. Et ça, j'ai trouvé ça très bien, parce que c'est pas ça le cœur du film. Comme c'est le pitch du film, c'est de montrer quasiment en temps réel, bon, pas tout à fait, mais quasiment en temps réel, une fin de nuit complètement atroce jusqu'au lever du jour. C'est une temporalité aussi qui accompagne bien le personnage et qui insiste sur le fait qu'on n'est pas tant là pour raconter un événement, un viol, mais bien comment ça affecte une personnalité et comment ça transforme quelqu'un. Et en ce sens-là, oui, c'est quand même un portrait de femme très beau et très intéressant. Et qui porte aussi, qui charrie toute la crispation et l'angoisse qu'on peut ressentir en voyant ce film, qui est nécessaire et qui est recherché, quoi.
C'est quand même une certaine performance, ce film. Et oui, c'est l'histoire du processus de cette victime là, qui vient de subir un viol, mais je dirais aussi que c'est un film qui vient dénoncer aussi une violence sociétale, mais affreuse, qui lui est faite et qui s'abat en fait sur elle et sur nous en même temps et qui nous anéantit, parce que c'est vraiment le monde entier se retourne contre elle en fait. Et à ce moment-là, on repense au titre. Moi, le titre m'avait laissé un peu songeuse, je le trouvais pas très beau en fait en soi, La Belle et la Meute, mais après avoir vu le film, je trouve que le titre prend tout son sens, c'est vraiment une proie et les chiens, les loups, je sais pas comment le dire, sont prêts à la tuer à tout moment.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a une espèce d'exagération dans leur violence. Je veux dire, à la fin du film, ils en viennent à lui dire que si elle continue à porter plainte, elle menace l'équilibre de la société tunisienne, quand même. Oh, ah ouais, combattre le patriarcat, ça menace l'équilibre de la société. Eh ben oui. Et c'est pas du tout exagéré, quoi. Ça pourrait peut-être paraître hyperbolique quand là, comme ça, on le raconte. Mais non, c'est vraiment le sens que porte ce film, quoi. C'est la violence est de pire en pire, de plus en plus exacerbée. Et en ce sens-là, ouais, ça marche très bien, ça, avec cette accélération.
Elle se retrouve dans le commissariat des policiers qui l'ont violée quelques heures plus tôt, et à chaque instant, elle s'attend à les voir au bout du couloir, et c'est ce qui se passe, elle tombe sur eux, et ils vont essayer de la menacer dans ce commissariat. Elle a personne vers qui se tourner une fois que Youssef a disparu, la seule femme policière lui tourne avec une lâcheté incroyable le dos, et donc oui, elle est vraiment sans défense. Et d'ailleurs, parce que tu dis que on la menace on lui dit qu'elle menace l'équilibre de la société tunisienne, mais il faut dire que ça part d'un fait réel, ce film. Elle a été accusée d'atteinte aux bonnes mœurs en retour, après avoir porté plainte pour son viol. On l'a attaquée en justice, elle, pour atteinte aux bonnes mœurs, parce qu'en fait, quand son viol survient, elle est en train de flirter avec un autre étudiant. Et donc on voit que ces menaces, elles ont été aussi mises en application, et donc elles sont réelles, c'est pas juste des menaces en l'air, c'est vraiment ce qui va se passer.
Oui, et puis alors, là encore, hein, je me base encore sur le peu que je sais du film, mais on a quand même l'impression qu'en contrepoint à toute cette horreur de l'histoire, il y a quand même une esthétique assez puissante qui est développée. Alors, vous avez, enfin, depuis le début, on emploie le mot de thriller et tout le vocabulaire qui va avec le thriller quand on parlait de bêtes traquées, tout ça. À chaque fois, il y a peut-être aussi cette esthétique du thriller qu'on attendait en tout cas de ce film avec cette affiche, oui, dans les tons jaune, bleu, vert sur des extérieurs nuits, peut-être sur la musique aussi, je sais pas si.
Alors, esthétique du thriller, je sais pas. Après, il y a une esthétique, c'est sûr. Enfin. Il y a des plans séquences qui sont quand même assez réussis. Je pense notamment au tout début, quand juste après que le viol ait eu lieu, sans qu'on le voit, il y a toute une scène où elle essaye de s'enfuir avec la voiture des policiers qui passe derrière, qui est assez affreuse. Et il y a aussi deux scènes, moi, qui m'ont vraiment marquée, que je trouvais vraiment très réussies. Une scène au tout début où elle est, en fait, ils sont en boîte de nuit et elle discute avec le jeune homme avec lequel elle veut flirter, en fait. Et il y a une sorte de ralenti, je ne sais pas si c'est vraiment ralenti, mais ça, on a l'impression que c'est au ralenti et de silence qui s'installe petit à petit avec justement la musique de fond qui prend le dessus. Et je trouve que cette scène, elle est vraiment très réussie. Surtout qu'à ce moment-là, je pense que c'est pour ça aussi, je pensais encore que ce jeune homme allait être son violeur, parce que j'avais pas bien lu le synopsis.
Mais pareil, parce qu'en plus, quand la première scène qu'on voit après le viol, c'est lui qui lui court après, et c'est très trompeur quand, comme nous, on n'a pas lu le synopsis.
Oui, bah, la deuxième scène, celle qui vient juste après, où elle sort avec cette personne-là, et en fait, la caméra qui était très très proche de leur visage, ne les suit pas, en fait, et on les voit s'éloigner de dos, monter les marches et sortir, et le plan continue jusqu'à ce que la porte se referme, et là le chapitre tombe et la scène d'après, elle a été violée, et j'ai trouvé que c'était vraiment puissant.
Et un film vraiment puissant dans toute son intégralité, si j'ai bien compris ce que vous en avez dit. En tout cas, ça donne envie d'aller le voir, et il est encore en salle à La Fourmi et au cinéma Opéra, si je me souviens bien. Voilà, et on continue avec un bref retour donc sur Taxi Sophia que tu as vu, Sarah. Alors, est-ce
oui,
que tu peux peut-être nous dire rapidement de quoi il retourne dans ce film?
Alors, difficile de le résumer d'une manière assez convenable, disons, puisque pour faire un résumé très bref, on voit des gens dans des voitures parce que ce sont des chauffeurs de taxi et ils roulent dans Sofia. Pour faire un résumé peut-être un peu plus sympathique, c'est un film qui se passe, qui se passe en petites séquences avec des espèces de sketchs qui ne sont pas drôles, mais qui sont parfois tragiques, parfois pathétiques, parfois juste neutres, en fait, parfois violents même. Et on peut dire toutefois que même s'il n'y a pas de fil narratif dans le film, il y a une circularité, vraiment un mouvement circulaire qui adopte les roues, la circularité d'une roue de voiture, peut-être. Bon, voilà, c'est peut-être de la surinterprétation.
Oui, alors du coup, est-ce que ça t'a plu, ce Taxi Sophia ?
Oui, beaucoup. En fait, je n'ai pas du tout l'habitude de voir ce genre de film qui fonctionne par petites séquences plutôt que de fonctionner sur un long fil narratif. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant à regarder. En outre, au sujet de l'esthétique, on pourrait peut-être développer un petit point là-dessus, parce que le spectateur doit vraiment entrer dans un taxi. On n'a pas le choix, donc si on a le mal de transport, tant pis pour vous. Mais le champ de la caméra est restreint, et c'est à bon escient, en fait. C'est pour qu'on adopte le regard d'une personne qui est dans la voiture. Mais aussi, la caméra adopte les soubresauts que l'on a avec les chaos d'une voiture, parfois des freinages brusques qui peuvent heurter un peu l'estomac délicat du spectateur. Et c'est juste génial, je trouve, de voyager de nuit dans Sofia à travers une esthétique aussi qui se base pas mal sur les bleus ou les noirs et les jaunes, puisque la nuit, c'est un peu comme ça, la couleur d'une ville.
D'accord, donc une belle esthétique. Est-ce que du coup, il y a un message derrière ce film ? C'est vraiment une promenade ? Parce que tu as parlé de certaines scènes un petit peu tragiques. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui réside là-dedans ou...
Alors, je ne dirais pas qu'il y a un message, mais peut-être plutôt des messages. on a une promenade de personnage en personnage, de vie en vie, en fait. Et il y a des messages qui sont très politiques, ou très politisés, où il y a une dénonciation, une vraie dénonciation sociale et contre les banquiers qui oppressent les chauffeurs de taxi, mais aussi contre tous ces riches qui profitent finalement de leur argent et de leur pouvoir pour en abuser sur le dos de personnes plus misérables. Mais il y a aussi des messages beaucoup plus humains, avec un moment, il y a une scène magnifique avec un vieux chauffeur de taxi qui s'arrête au bord de la route pour donner son casse-croûte à un chien. Alors qu'il n'a presque pas d'argent, il dit « Ah, mais je me sens seule depuis que mon fils est mort. Je suis tout seul et toi aussi, tu es seul au bord de la route. » Et c'est très beau, très touchant.
Bon, et donc du coup, tu nous recommandes chaudement d'aller le voir, si je comprends bien.
Oui, c'est ça. Et pourquoi pas d'y retourner, tout comme ce film retourne sans arrêt sur les destins des personnages.
D'accord, eh bien il est encore en salle pour la semaine prochaine au cinéma Le Cinéma. Si vous arrivez à le trouver au fin fond de l'impasse Saint-Polycarpe, vous verrez, c'est un endroit absolument magique.
Et tout de suite, on retrouve Pierre pour un nouvel épisode de Sérivore. Bonjour Pierre.
Bonjour Occitane.
I'm sorry, are you addressing me? Because your authority is not recognized in Fort Kickass.
You just crossed over into the Twilight Zone.
Where is Jessica Hoyt?
Jim. James. Jimothy.
This is the warship Rocinante.
I'm Ron Swanson.
In the 90s, I was in a very famous TV show.
Bonjour à vous, cette fois-ci on s'attaque à nouveau à une série qui se trouve dans le générique que vous venez d'entendre, et oui, après BoJack Horseman et aussi Archer comme vous pouvez l'entendre en introduction, cette semaine on s'attaque à The Expanse, et je vous dis tout de suite, c'est une série que j'ai binge-watché en moins d'une semaine en début d'année, et je cherche encore une série qui pourrait la remplacer, parce que voilà, je suis un peu frustré que je dois attendre la 2018 pour avoir la saison 3, parce que c'est une série que j'aime énormément, c'est un space opéra. Voilà, alors comme vous le savez, comme beaucoup ici dans ce studio doivent le savoir, je suis un friand de science-fiction, et The Expanse ne déroge pas du tout à cette qualité qu'on peut trouver dans les space opéras, bien fait, intelligent. Du coup voilà, je cherche encore une série qui pourrait arriver à la cheville de The Expanse, non pas que ce soit une série particulièrement bien jouée, avec des personnages qui soient totalement attachants, bien sûr, en ayant discuté un peu, certains personnages peuvent paraître vraiment casse-couilles, mais vraiment, mais en fait on s'y accroche mine de rien, parce que ce qui compte vraiment ici, c'est l'univers qui a été créé, et surtout, eh bien, l'arc narratif principal, qui est une histoire vraiment très très bien menée. Ça, il faut l'admettre, les moyens sont là, la production est vraiment tip-top, rien de particulier, mais mine de rien, tous les passages dans l'espace, etc., sont très intelligents, sont très bien filmés, et surtout, bien sûr, il y a une volonté de respecter le réalisme, notamment autour de questions parfois vraiment, vraiment forte, ne serait-ce que par exemple un groupe de rescapés sur un centre botanique sur Ganymède, un des satellites de Jupiter du coup, qui se retrouve face à une situation assez importante où en fait il n'y a qu'un seul vaisseau qui peut partir, qui peut prendre à son bord qu'une quarantaine de personnes, alors qu'il y a une centaine de rescapés, et bien sûr, les gens qui y restent vont forcément mourir. Donc ce sont quelques moments qui sont vraiment marqués de réalisme et qui sont assez saisissants. Pour revenir vite fait à l'aspect technique, c'est une série qui a été produite par Sci-Fi, une chaîne américaine plutôt bien réputée dans l'univers de la science-fiction, créée par Mark Fergus et Hawk Ottsby depuis le 14 décembre 2015. C'est actuellement diffusé sur Netflix. Alors il y a deux saisons pour l'instant, pour un total de 23 épisodes d'environ 50 minutes chacun. Alors il y a quelque chose à savoir, c'est que cette série est, comme Game of Thrones, tirée d'une série de romans qui s'appelle aussi The Expanse, écrit par James S.A. Corey. C'est un nom de plume en fait pour deux auteurs qui se sont mis ensemble pour écrire toute une série, où le septième livre va paraître en décembre. Du coup, si la série vous manque, hein, comme moi, vous pouvez toujours vous en remettre à cette série de livres. Alors, l'histoire est relativement simple, mais en même temps offre beaucoup de complexité. On est dans un futur pas si distant, enfin dans 200 ans, ça reste plutôt réaliste. Mars a été colonisé, mais pas entièrement. On est encore en train de mettre en place la terraformation. Et sur Terre, il n'y a qu'un seul gouvernement sous l'auspice de l'ONU. Il y a une très très grande conflictualité entre l'ONU et Mars. Et les deux, on va dire, pays, enfin planètes, ont investi la ceinture d'astéroïdes pour en extraire notamment l'eau afin de nourrir les populations à la fois martiennes et terrestres. Et donc on se retrouve dans une forme de guerre froide entre deux planètes avec des systèmes de pensée totalement différents, et tout explose dès le premier épisode avec justement l'explosion d'un gros vaisseau, d'un vaisseau transporteur d'eau de la marine de l'ONU, ce qui lance tout un conflit géopolitique et même, on pourrait dire, spatialo-politique, ce qui apporte énormément d'intérêt à cette intrigue qui se construit petit à petit autour de certains personnages, notamment la sous-directrice générale de l'ONU sur Terre, mais aussi un équipage survivant de ce premier vaisseau qui a explosé, qui consacre tout leur temps à essayer de connaître la vérité derrière cette attaque qui a été commise par on ne sait pas qui. Du coup, voilà, c'est vraiment, on pourrait dire Game of Thrones dans l'espace, mais les premières saisons de Game of Thrones, c'est-à-dire où il y a vraiment cet accent sur les personnages, sur l'univers qui est créé petit à petit, et les rapports de force à la fois entre les factions qui apparaissent, et il y en a vraiment beaucoup, c'est ça qui rajoute encore plus de la complexité, mais aussi de l'intérêt, avec énormément d'acteurs qui vont du coup se jouer les uns avec les autres, se contredire, etc. Tout ça pour on ne sait pas trop quoi en fait, et du coup ça rend cette série vraiment très intéressante. Et aussi, dernier petit détail, si vous vous lancez dedans, un conseil: attendez le plus longtemps possible avant de le regarder, parce que c'est Netflix qui les diffuse, et c'est des gros connards, c'est-à-dire que ils savent précisément comment couper une saison pour vous faire attendre avec une impatience de malade la prochaine, ce qui fait que c'est d'une frustration énorme puisque ça s'arrête avant même la fin d'un quelconque arc, et parce qu'en fait ils suivent les livres, mais les livres prennent une saison et demie pour se conclure. Du coup voilà, je vous invite à attendre un petit peu avant de la binge-watcher d'un coup, mais si vous ne pouvez pas attendre comme moi, regardez les deux saisons en une semaine, ça vaut vraiment la peine.
Merci beaucoup Pierre pour ce nouveau Sérivore, et tout de suite on traverse la Manche pour retrouver Caroline avec un nouvel épisode de Toute Toile Dehors.
Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Être une chèvre ou une sorcière. Chères auditrices, chers auditeurs, Halloween a beau être passé, il vous faudra choisir. Mais est-ce là vraiment un choix ? C'est bien ce que se demande Shula, l'héroïne de I Am Not a Witch, une satire sociale sur l'obscurantisme qui sévit dans les campagnes zambiennes. Allez, montez, Toute Toile Dehors vous embarque.
Nindo chuma anoyo. Tatwishi wokwa fuma.
Sapa nomba chirikuliwe nomba, okusarapo.
I Am Not a Witch est le premier long métrage de Rungano Nyoni, réalisatrice d'origine zambienne qui a grandi au Pays de Galles. Il nous raconte l'histoire d'une jeune orpheline, renommée Shula, signifiant la déracinée, qui se voit accusée de sorcellerie dans son village et est alors reléguée dans un camp de sorcières qui n'est autre qu'une carrière de pierre où sont exploitées les femmes de la région. On lui laisse alors le choix de reconnaître soit sa nature de sorcière, ou tout bonnement, celle de chèvre. Choix cornélien s'il en est. Enfermée dans un mutisme plutôt compréhensible face à l'absurdité de la situation, Shula, à choisir entre peste et choléra, se dit qu'après tout, être une sorcière ne doit pas être si mal. C'est alors que le directeur du camp de sorcières, un fonctionnaire gras et avide d'argent dénommé Tembo, décide d'exploiter Shula et le pouvoir qui lui est conféré malgré elle. Il traîne l'enfant à travers la région, et celle-ci fait office de juge lors de règlements de comptes divers et variés, tandis que les habitants la considèrent avec crainte et effroi. Tembo ne manque pas de monnayer les services de sa petite sorcière et de se remplir les poches. Si le scénario peut sembler décousu, le film se caractérise avant tout par un savant mélange de genres et de tons. À la croisée des chemins entre réalisme magique et drame sociopolitique, le mot qui nous vient dès les premières images est celui de grotesque. Le film joue en effet sur la superposition grinçante de cultures et de temporalités différentes, mêlant humour cinglant et sentiment d'étrangeté. La scène d'ouverture en témoigne. Nous sommes dans un bus, plan fixe centré sur le tableau de bord, au milieu d'un groupe de touristes européens en route pour aller admirer les sorcières zambiennes reléguées dans leur camp. Celles-ci sont assises dans la poussière derrière une barrière et arborent des visages poudrés de blanc. Elles sont par ailleurs attachées à de grosses bobines de bois à l'aide de rubans blancs, eux aussi. Un guide des plus placides explique qu'il s'agit là d'une mesure de sécurité afin qu'elles ne s'échappent pas et ne pratiquent leur sorcellerie à tout va. Rien n'est dit quant à leur exploitation, vous vous en doutez bien. Les touristes ventripotents prennent des photos alors que l'hiver de Vivaldi retentit en bande-son. Le décalage entre les deux mondes, d'un côté la culture occidentale, de l'autre la ruralité zambienne victime de corruption, crée des scènes de farces sociopolitiques d'une absurdité grinçante. On voit par exemple une des filles de sorcière, qui est devenue vendeuse de perruques en ville, rendre visite à sa mère dans le camp et offrir alors aux femmes d'acheter des perruques pour ressembler à, je cite, Beyoncé ou encore Nicki Minaj. Des noms aux résonances exotiques pour ces femmes dont le seul horizon reste la pierre qu'elles taillent tout le jour durant. Corruption politique, obscurantisme et misogynie forment un cocktail détonnant pour un film qui, bien que souffrant d'un scénario assez décousu, met en scène de façon fantasque et sans verser dans le moralisme pur une société manipulée où les femmes n'ont finalement le choix qu'entre exploitation ou dévoration. Alors, sorcière ou chèvre, Beyoncé ou Nicki Minaj ? Il faudra malheureusement patienter jusqu'au 27 décembre pour découvrir les fantaisies de Rungano Nihoni en France. En attendant, nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro de Toute Toile Dehors.
À quelques suggestions de sorties ciné pour la semaine. D'abord, deux avant-premières, Rémi.
Oui, deux avant-premières. La première, c'est ce soir, mercredi, donc 8 novembre, à 20h au Comédia, avant-première de 12 jours, le nouveau Depardon dont vous avez peut-être entendu parler. Ces 12 jours, c'est les 12 jours avant lesquels les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience. Alors d'un côté le juge, de l'autre le patient. Entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté. C'est ce dialogue que filme Depardon avec son nouveau dispositif très très simple, un petit peu du même genre de celui qu'il avait utilisé pour son précédent film. Cette avant-première, c'est donc ce soir, et puis elle a la particularité d'être en présence de Depardon, ce qui ne fait jamais de mal. Une deuxième qui a lieu au cinéma Lumière Terreau la semaine prochaine, lundi soir, La Lune de Jupiter de Cornel Mundruxo. Ce film suit un jeune migrant qui se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la frontière. Jusqu'ici, tout va à peu près bien, mais sur le coup de sa blessure, Ariane découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter. Alors, c'est un petit peu étonnant, la suite l'est manifestement tout autant. Jeté dans un camp de réfugiés, il s'en échappe avec l'aide d'un docteur qui nourrit le projet d'exploiter son extraordinaire secret. Et on va suivre l'espèce d'aventure un petit peu bizarre de ces deux personnages dans ce qui semble être une fresque grinçante qui n'a pas l'air de verser tant que ça dans la science-fiction, mais bien de dresser un portrait extrêmement critique à travers cette arrivée du miracle et d'une espèce de forme de magie dans ce monde un petit peu atroce. Et Occitane, je crois que tu l'as vu à Cannes.
Oui, c'est un film que je vous recommande chaudement et sur lequel j'espère nous ferons une émission. Ensuite, tu vas nous parler de quelques films sortis en salle.
Oui, je voulais dire quelques mots de Laisser bronzer les cadavres, ne serait-ce que pour son titre assez magnifique, pour son affiche particulièrement splendide aussi, film d'Hélène Cattet et Bruno Forzani. Ça se situe au bord de la Méditerranée, l'été, enfin tout ce dont on aurait envie maintenant, une mer d'azur, un soleil de plomb et 250 kilos d'or volés par Rino et sa bande. Ils ont trouvé la planque idéale, un village abandonné, coupé de tout, investi par une artiste en manque d'inspiration aussi. Hélas, quelques invités surprises et deux flics vont contrecarrer leur plan. Ce lieu paradisiaque, autrefois théâtre d'orgies et de happening sauvage, va se transformer en véritable champ de bataille impitoyable et hallucinatoire. C'est comme ça que se termine le synopsis et c'est adapté de manchettes. Ça donne particulièrement envie pour les amateurs de films policiers un petit peu tarantinesques. Et il y en a forcément parmi vous, chers auditeurs. Et puis alors, dans un registre, mais diamétralement opposé, Sans adieu de Christophe Angout. Nous sommes dans la ferme, dans une ferme du Forez, à l'est du Massif Central, où Claudette, 75 ans, se bat pour rester digne face à une société qui n'a plus grand-chose à faire d'elle et dont elle a du mal à accepter et à suivre l'évolution. Le monde moderne avale chaque jour un peu plus ses terres, ses bêtes, celles de ses voisins, comme elle, d'autres résistent, et luttent au quotidien pour préserver leurs biens et finalement leur vie. Ce documentaire dont tout le monde loue la tendresse touchante pour ces campagnes un petit peu en perdition, ce documentaire donc est projeté cette semaine aux Lumières Bellecour, et j'espère bien que nous arriverons à en faire une émission aussi, parce qu'il faut voir du documentaire au cinéma, c'est important.
Et en parlant de documentaire, le documentaire est à l'honneur en salle en ce moment.
Oui, puisque le ciné Toboggan à Décines, alors oui, à Décines, programme son mois du film documentaire pendant ce mois de novembre, donc avec un certain nombre de projections, en particulier le très remarqué Un Paese di Calabria de Chou Aiello et Catherine Catla, qui filme un village italien qui renaît après l'arrivée de migrants, justement, dans ce village. Et puis également le festival Interférence chez nos amis des Cinémas Lumière du 8 au 18 novembre aux Lumières Bellecour, donc festival de cinéma documentaire et de débat public, avec entre autres une soirée qui sera organisée autour de l'Assemblée de Mariana Otero sur Nuit Debout.
Enfin, comme d'habitude, plein de ressorties du patrimoine.
Oui, alors le patrimoine récent d'abord, Under the Skin de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson est projeté au ciné-café Aquarium. Ça sera ce jeudi à 20h45. Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce film qui avait quand même fait pas mal de bruit à l'époque, on suit une extraterrestre qui débarque en Écosse et prend l'apparence d'une séduisante jeune femme qui part ensuite en quête de proies humaines le long des routes écossaises. Là encore, dans un registre différent, et puis on fait un saut dans le temps, un film de 51, Knock, de Guy Lefranc avec Louis Jouvet. Pour ceux qui n'auraient pas envie de se fader la purge avec Omar Sy, vous pouvez voir le vrai Knock, donc, qui va ressortir cette semaine au cinéma Opéra.
Et à l'Institut Lumière, pour finir ?
Eh bien, l'Institut Lumière, c'est le best-of du Festival Lumière. Les films dont nous avons parlé dans notre chronique quotidienne et que vous n'avez pas eu le temps de voir, eh bien, c'est le moment. Alors, je vous en fais quelques-uns rapidement. Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot, Maë vous dira que c'est génial et que ça maintient ces tensions qu'on aime chez Clouzot avec peut-être son film le plus connu. Annie Hall de Woody Allen, là aussi chef-d'œuvre de ces comédies. On a envie de dire comédie romantique, mais en fait Woody Allen fait de ce film une comédie romantique qui rend non romantique tous les films qu'on appelle comme ça habituellement. Novecento de Bertolucci, où on se retrouve avec De Niro et Depardieu sur une même affiche, et rien que pour ça, ça mérite d'aller 5 heures au cinéma. Et puis My Blueberry Nights de Wong Kar-wai, film absolument splendide avec Norah Jones et Jude Law. Donc film que je vous recommande, ainsi que tous les autres qui sont projetés dans ce best-of, où on a vraiment la crème de ce festival. Beaucoup de choses à voir cette semaine, donc, chers auditeurs, j'imagine que vous ne manquerez pas de cinéma. D'Étoiles plein les yeux, c'est terminé pour ce 71e numéro, avec cette semaine Occitane, Sarah, Maë, Léa, Marie, Pierre et Caroline. C'est bon, j'y suis arrivé, tout le monde y est. Chers auditeurs, on vous dit bien sûr à la semaine prochaine, et puis d'ici là, bonne semaine à tous dans les salles obscures.